l'actualité des idées aujourd'hui. Bonjour. Plaidoyer pour la liberté du juriste et écrivain François Sureau. Il sera notre invité à partir de 12h55 avec à la clé cette question: liberté, sécurité, pourquoi nous ne devrions pas avoir à choisir. Il nous expliquera à travers trois plaidoiries qu'il a portées, prononcées devant le Conseil constitutionnel, pourquoi nos libertés sont aujourd'hui en danger. Mais d'abord, la vie d'après, comme s'il fallait réparer le monde ou tout au moins l'affronter. Deux écrivains se saisissent du traumatisme créé par les attentats, par la littérature, par la fiction. Ils parlent du réel sans s'obliger à lui être fidèle. Erwan Larère est notre premier invité pour le livre que je ne voulais pas écrire chez Kidam Éditeur, et Frédérica Amalia Finkelstein, notre seconde invitée pour Survivre, un roman publié à l'Arpenteur. C'est tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Quatrième de couverture, je suis un romancier, j'invente des histoires, des intrigues, des personnages et j'espère une langue pour dire et questionner le monde, l'humain. Il m'est arrivé une mésaventure devenue une tuile pour le romancier qui partage ma vie. Je me suis trouvé un soir parisien de novembre au mauvais endroit, au mauvais moment, donc lui aussi. Ici est né le livre que je ne voulais pas écrire, celui d'Erwan Larère, celui d'un homme grièvement blessé le 13 novembre 2015 au Bataclan, celui aussi d'un écrivain marqué dans sa chair. Un livre publié chez Kidam Éditeur. Bonjour à vous, Erwan Larère.
Bonjour.
Première phrase, je n'ai jamais cru à un monde meilleur, mais la violence que nous sommes en train de vivre en France, en Europe, cette violence-là me tue. Ainsi commence le second roman, Survivre, de Frédérica Amalia Finkelstein aux éditions de l'Arpenteur, celui d'une romancière durablement marquée, elle aussi, d'une autre manière, peut-être par les attentats du Bataclan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Un doute d'abord, je ne sais pas si cette rencontre entre vos deux plumes, vos deux styles, vos deux personnalités très différentes sera heureuse ou malheureuse, mais je vous remercie en tout cas de l'avoir accepté l'un et l'autre, en confiance aussi. Questionner le monde, sa noirceur, ses valeurs, vous semblez quand même tous les deux habités par une même quête littéraire, une quête littéraire commune, même si vous l'abordez de manière différente, même si la vie a aussi fait que vous ne parlez pas vraiment du même endroit. Erwan Larère, vous avez longtemps refusé de témoigner pour ne pas devenir l'écrivain rescapé du Bataclan, ne pas être réduit, vous et l'écrivain que vous êtes, peut-être à un état victimaire. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce malaise a disparu ou il reste très présent?
Non, il a pas complètement disparu. Maintenant, j'ai fait le choix avec mon éditeur de publier ce texte, donc je peux plus me cacher. Voilà, je suis un petit peu ému parce qu'en fait France Culture c'est un peu ma radio et d'habitude je suis de l'autre côté du poste et là de le voir en live c'est un petit peu émouvant. Donc je vous remercie pour cette invitation.
Bah, vous êtes le bienvenu, vous dites que vous avez fait le choix avec votre éditeur, mais c'est un peu plus qu'un choix, on a le sentiment que ce livre que vous ne vouliez pas écrire, à un moment il vous a fallu écrire, que vous avez été rattrapé par l'écriture, ou qu'en tout cas l'acte d'écriture, et ça c'est vous qui le dites, a précédé et pas présidé, quoique à la décision d'écrire.
Oui, tout à fait. J'avais, en effet, enfin, ça m'était pas venu à l'idée d'écrire sur ce que je considérais comme mes aventures entre guillemets privées. Vous dites que j'ai été grièvement blessé. J'ai été blessé. Hein. Il y a des gens qui ont été quand même beaucoup plus touchés que moi. Effectivement, autour de moi, on me disait mais t'étais le seul écrivain là-bas, mais t'es romancier, il faut que tu en fasses quelque chose. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout, puisque comme vous l'avez lu, ce que j'aime, c'est inventer des histoires. Et puis, une nuit, je me suis réveillé et les mots ont jailli. Et donc, c'est posé la question de qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais quelque chose? Est-ce que j'essaye de les mettre en forme? Et je me suis autorisé à le faire à partir du moment où j'ai compris, comme on en discutait tout à l'heure avec Frédérica, que j'étais au carrefour d'une aventure personnelle, mais aussi de quelque chose de collectif. Et là, je me suis autorisé à commencer à essayer de mettre en forme, voilà, sans savoir où ça allait me mener.
Vous reprenez donc dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, l'écriture, non pas de ce livre, mais d'un autre livre, de Marguerite n'aime pas ses fesses, comme une échappatoire, mais aussi comme un moyen de catalyser votre énergie ou votre fatigue. Je suis Ségolène, je suis un caillou, ça ce sont des mots que vous vous êtes beaucoup répétés pendant et après. Et puis petit à petit, il y a cet autre livre qui a commencé à germer, à s'écrire sans vous. Et voici donc le livre que vous ne vouliez pas écrire, qui est devenu le livre qu'il fallait écrire, un livre émouvant, pudique, musique tout en ne cachant rien. La réalité n'est ni embellie ni édulcorée, la réalité elle est là, elle est quand même crue, elle est frontale, mais elle n'est pas spectaculaire, beaucoup plus provocante, beaucoup plus dérangeante. Cette violence qui s'étale dans vos lignes, dans vos pages, Frédérica Amalia Finkelstein, et à dessein, on a envie de dire, hein. La blessure, elle est collective, vous venez déjà de l'évoquer, Erwan Larère, même si on n'y était pas, on peut avoir été marqué par ce qui s'est passé, ça peut avoir un impact sur nos vies. Comment, comme écrivain, comme romancière, Frédérica Amalia, vous avez choisi, vous, de traiter de la violence qui est autour de vous, qui est même omniprésente, hein.
Oui, c'est ce que je disais à Erwan tout à l'heure, c'est que cet événement du 13 novembre, pour moi, était un déclencheur dans l'écriture. J'étais en train de travailler à un autre livre. J'échouais beaucoup. Et ce soir-là, il y a eu pour moi un avant et un après dans l'échelle de violence du monde contemporain, en tout cas de mon environnement immédiat, donc de mes villes, Paris. Et cet événement, il a été pour moi une gifle. Et j'ai voulu essayer de comprendre, en tout cas à ma façon, pas rationnelle, mais en tout cas par l'émotion, par l'écriture, ce qui se jouait là, dans cet avant et cet après du 13 novembre, et en quoi le monde était en train de changer.
Alors là, comment on s'y prend comme romancière? Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'on peut tout dire, tout montrer, tout raconter? Comment on va chercher ça en soi et comment on en fait une parole presque collective?
Oui, surtout quand les informations elles-mêmes ont quelque chose d'obscène. Je me souviens, en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est une photographie du Bataclan qui a circulé après la tuerie sur les réseaux sociaux, qui a été à moitié censurée. Et je me suis mise à éprouver de la fascination pour cette photo. Et je savais que c'était vraiment obscène, il y avait quelque chose de morbide, et j'étais gênée par cette fascination. Je me disais pourquoi je regarde ces corps morts dans cette fosse. Je m'identifiais un peu à ces gens parce que je suis allée plusieurs fois à des concerts là-bas. J'avais des souvenirs qui rejaillissaient, mais je voulais comprendre pourquoi j'étais fascinée par ça. Et pourquoi il y avait cette jouissance, peut-être inconsciente, mais des médias, on a l'impression que c'était pour eux l'occasion de créer un surévénement et de... Enfin, voilà, il se jouait tellement de choses dans cette extrême violence que, par différents moyens, j'ai commencé à construire un travail d'écriture, mais c'est difficile de vous dire exactement comment je m'y suis prise.
Peut-être un peu dépassé. Ça dit beaucoup, beaucoup aussi de notre monde et de nos sociétés, la façon dont ça a été relaté, relayé, commenté. Il y a l'événement en lui-même. Est-ce que ça dit de l'état du monde et du collectif de nos sociétés? Et il y a aussi la manière dont on en a parlé après. Il y a aussi tout le discours autour, tout le discours sur, et cette orgie d'images ahurissante. Ouais. Moi, je l'ai su qu'après, puisque j'étais à l'hôpital, mais il y a un double questionnement, en fait, voilà. Sur la violence et sur comment cette violence nous est jetée au visage, comment est-ce qu'elle est analysée, pas analysée.
D'où le choix, pardon, pour vous, Erwan Larère, dans l'immédiat après-événement, de ne pas témoigner, de ne pas participer à ce cirque médiatique, à cette agora de l'instant.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai quand même reçu des coups de fil et des mails le matin du 14 novembre, alors que j'étais à l'hôpital.
Donc le lendemain du 13.
Ouais, donc on a su que j'étais vivant genre vers 4h30 du matin ou 5h du matin, et j'ai eu il y a une obscénité qui s'est déployée qui est assez qu'il est bon de questionner, il me semble, et que c'est nos rôles aussi romanciers, même si on n'est pas sociologue ou philosophe, mais c'est aussi notre rôle de questionner ce monde.
De questionner la violence de ce monde, du coup.
Oui, la violence symbolique et physique, oui.
De comment la traiter aussi sous une forme littéraire, c'est-à-dire comment la rendre accessible et compréhensible au lecteur. C'est là que la responsabilité de l'écrivain peut entrer en jeu d'une certaine manière. Ou vous n'aviez pas le souci du lecteur en écrivant l'un et l'autre vos textes? C'est-à-dire, est-ce que ça a été... Vous avez écrit pour vous, pour tenter de comprendre votre propre émotion ou réaction face à cette violence et ces images, ou par rapport à ce que vous avez vécu? Ou il y a quand même le souci de partage pour l'un comme pour l'autre?
Je crois que c'est une des questions de la littérature. Pourquoi on publie déjà? C'est forcément parce qu'on est préoccupé par le lecteur, parce qu'on a envie de partager quelque chose. Et en même temps, dans mon expérience d'écriture, ça a toujours été fondé sur une nécessité qui dépasse le regard de l'autre. On est poussé par quelque chose, par une obsession, par une passion, par un désir.
Un peu une ambition aussi, voire
oui,
une prétention. C'est-à-dire de se dire que notre individualité, notre petite... peut avoir la prétention d'expliquer le monde et de dire le monde. Alors même si c'est de manière littéraire, même si c'est en travaillant la langue, même si c'est en inventant des histoires, mais il y a un côté aussi un peu. Je comprends ce que tu dis. On est vraiment. On ne sait pas quoi. Ça vient de soi, mais il y a du partage, il y a l'autre, c'est assez mystérieux. En fait.
Pour moi, c'est un peu le jeu est un autre de Rimbaud. On écrit en tant que jeu, mais on devient quelqu'un d'autre.
Mais si on n'a pas prétention à l'universel, après il ne faut pas écrire. Enfin, il me semble.
Il y en a un qui parle assez bien de ça, c'est l'écrivain Mathieu Riboulet qui, lui, a écrit peu après les attentats de Charlie Hebdo, peu après janvier 2015, en mai 2015, a paru Prendre date, qu'il a coécrit avec l'historien Patrick Boucheron. Et il dit cette chose, il fallait trouver le moyen d'être à la hauteur de l'événement.
Ça a l'air presque sophistiqué, voire obscène de dire ça, mais je pense vraiment que c'est une question de forme. La question déterminante de la littérature, j'enfonce une porte ouverte, c'est évidemment la question de la forme. Et que si on veut prendre en charge cet événement du 13 novembre, il faut absolument que la forme qu'on trouve soit d'une certaine manière à la hauteur de cet événement, ou à la hauteur de la sidération, ou à la hauteur de l'horreur, ou à la hauteur du défi qui nous est lancé, peu importe, quel que soit l'angle qu'on choisisse d'aborder. Mais il s'agira d'être à la hauteur, voilà. Et que être à la hauteur pour prendre en charge, parce que c'est vraiment là pour le coup cette fonction-là que remplira ou que devra remplir la littérature, c'est vraiment prendre sur nous, quoi. C'est-à-dire étymologiquement comprendre, hein. C'est vraiment ça. Mais se charger de ce poids-là, c'est pas une petite affaire et il faut pas risquer le contresens, l'erreur, le truc approximatif. Ce serait absolument impardonnable. Donc il faut absolument prendre le temps.
Voilà comment être à la hauteur de l'événement, Erwan Lahrer. Vous êtes beaucoup interrogé sur la forme à donner à ce livre que vous ne vouliez pas écrire. Vous ne vouliez pas en faire une autofiction, un roman à matière autobiographique qui servirait la fiction. Vous ne vouliez pas non plus que ce soit un témoignage. Vous souhaitiez que ça reste un objet littéraire qui, quelque part, interroge ce réel, qui le prenne peut-être comme matière première, mais que vous puissiez détourner pour en faire un réel objet littéraire.
Oui,
quel a été le questionnement un peu ?
Oui, c'était le questionnement. Je voulais absolument pas d'un récit ou d'un témoignage. Il y en a eu des dizaines. Enfin voilà. Et puis ceux que ça intéresse, ça vous les trouvez.
Et vous l'écrivez ni témoignage, ni récit, donc inventer autre chose, forme, langue, creuser, avoir l'audace de t'autoriser à mentir, même par omission, s'il s'agit de mettre de l'ordre dans tes souvenirs, très peu pour toi, tu aimes imaginer, tu ne sais pas relater t'ennuies, relater t'enfermes, dans l'aveu, dans l'avenue, dans le datable, les intervalles, la véracité, dans des faits qui sont faits, fabriqués.
Oui, c'est une recréation l'écriture, hein. C'est pas... Il s'agissait pas de dire le réel ou de raconter mes souvenirs, il s'agissait effectivement d'avoir cette espèce de matière, de magma, d'émotions, de sensations, de réflexions aussi, et de se dire, en tant qu'auteur, donc d'artisan dont le matériau est la langue, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à en faire? Et qu'est-ce que je peux en faire? Et donc c'était à la fois très très excitant comme défi, parce que objet littéraire, c'était un but, c'était un idéal. Je sais pas si je l'ai atteint, mais c'était ce vers quoi je tendais. Et donc c'était très excitant, mais aussi très décourageant. Parce que d'habitude, j'ai une totale liberté quand j'invente mes histoires, j'invente la langue qui va avec. Et là, j'étais corseté par le réel. Donc, par moment, je me disais, j'y arriverai jamais, laisse tomber.
Tandis que vous, Frédérica Amalia Finkelstein, on a justement le sentiment que vous cherchez au maximum à réduire la distance. C'est-à-dire que vous êtes entre le témoignage, un témoignage personnel de ce qui a pu être vécu, mais aussi la réflexion autour de notre capacité à survivre, à plus qu'à cet événement d'ailleurs, au temps dans lequel nous sommes ancrés aujourd'hui. C'est pas la bonne distance ou la distance lointaine que vous avez cherchée, c'est pas celle peut-être du philosophe ou de la réflexion, c'est vraiment cette distance totalement générationnelle, être en prise avec ce sujet, quitte à nous confronter directement à cette violence. Hein. Et vous employez le jeu, ce qui est peut-être aussi une direction qui nous permet d'avancer avec vous dans cette réflexion. Vous pouvez nous lire un extrait, vous avez évoqué tout à l'heure la question des images qui ont pu sortir sortir du Bataclan.
Je fais ce cauchemar de façon régulière depuis que j'ai vu la photographie sordide de la fosse du Bataclan. Quand je revois ces corps troués, déchiquetés, abandonnés dans des positions humiliantes, quand je revois cette boucherie dans ma mémoire, j'ai la haine. Quand je revois le sang répandu sur le sol, un goût métallique surgit. C'est comme si j'avais ce sang dans ma bouche. C'est comme si leur sang était mon sang. Et de nouveau, j'ai la haine. Bien souvent, je me dis que je n'aurais jamais dû chercher à voir cette photographie. Mais rien à faire. Dès que j'ai su qu'elle existait, et qui plus est, dès que j'ai appris qu'il était interdit de la relayer sur les réseaux sociaux, la trouver est devenue une obsession. De réels efforts ont été faits pour empêcher que l'on y accède. Mais trop de sites la relayaient. Les autorités étaient impuissantes. À chaque centième de seconde, le nombre d'images s'est démultiplié et la toile s'est retrouvée littéralement inondée par cette photographie. Ainsi, en moins d'une minute, la photographie a surgi devant mes yeux. Mais il y avait un problème. Les corps étaient floutés, comme s'il était inacceptable de les voir ainsi dans leur mort, comme s'ils relevaient de la pornographie. Cela m'a mise hors de moi, car je voulais voir ces corps, plus précisément, je voulais voir ce qu'on leur avait infligé. La vue d'un corps assassiné est-il un déshonneur ? Non, flouter le corps d'un mort, c'est le tuer une seconde fois. Il fallait que j'obtienne la version non censurée de la photographie, parce qu'il fallait que je voie ces corps dans leur réalité, avant qu'ils n'aient été violés par la bienséance médiatique. Il fallait que je les voie innocents dans leur mort. C'était une question de respect pour ce qu'ils ont subi, et peut-être aussi, je l'avoue, un réflexe de voyeur.
Il faut compter les morts, écrivez-vous ailleurs, il faut les compter avec rigueur et mesure. Si nous ne comptons pas les morts avec rigueur et mesure, nous n'aurons plus aucun sens des priorités. Être à la hauteur de l'événement, comme disait tout à l'instant l'écrivain Mathieu Riboulet, c'est justement affronter ces questions-là, c'est ne pas se défiler, c'est tout simplement accepter de voir et faire voir pour vous.
Oui, pour moi le temps réel, c'était le matériau premier de l'écriture de ce livre et c'était tout mon objectif. C'était de donner un miroir dynamique de la réalité, donc d'emmener le lecteur plus loin, parce que je ne vois pas l'intérêt de restituer des informations ou d'écrire comme le ferait un journaliste. C'est pas le but d'un écrivain, à mon avis. Mais je voulais saisir cette violence et essayer de... C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Survivre », c'est parce que je voulais emmener celui qui lirait ce texte dans un état où il serait à la fois confronté aux morts, confronté à cette extermination, mais l'emmener plus loin. Et je pense que c'est par la brutalité que j'ai essayé de le faire, pour être justement à la hauteur de l'événement, à la hauteur du réel.
C'est courageux, enfin, de ce que je viens d'entendre, l'extrait que je viens d'entendre, c'est courageux, parce que j'ai l'impression que tu n'épargnes pas le lecteur, mais tu n'as pas dû t'épargner non plus en écrivant.
Et c'est très difficile, ouais.
Tu mets à nu, ces pulsions un peu obscènes, ces choses qu'on a tous en nous, quelque part. Je ne veux pas ramener ça à moi, mais ça me rappelle un peu quand j'ai écrit mon livre précédent, qui s'appelle Marguerite n'aime pas ses fesses, où je questionnais la libido masculine, entre autres, et où des fois on va chercher des choses et on se dit « Ah mais ouais, c'est ça être un mec, et j'ai ça aussi en moi. » Et bon, là, c'est autrement plus... Mais voilà, je trouve ça courageux.
Jusqu'à tapisser les murs de sa chambre des visages des victimes et des kamikazes, jusqu'à se souvenir du nom des victimes, jusqu'à aussi, et c'est peut-être l'autre question, accorder une place aux terroristes, à ceux qui ont commis l'acte, qui ont commis l'irréparable. C'est une question que vous avez dû vous poser, j'imagine, l'un et l'autre. Vous leur donnez tout simplement la parole, Frédérica Amalia Finkelstein, à travers les épigraphes de chapitres. Pourquoi ?
Oui, ce que j'ai trouvé inédit, en fait, c'était l'idée qu'une génération s'entretue. Et que j'ai remarqué, par exemple, en effet, dans mon livre, je parle de... pas seulement des terroristes du Bataclan, mais des terroristes de Columbine, de Joko Tsarnaev, qui a fait l'attentat de Boston. Il y a souvent cette jeunesse qui tout à coup bascule, se radicalise. Et je trouvais ça à la fois tellement triste et en même temps assez fascinant. Mais justement, j'ai essayé de penser cette fascination. Et je me suis dit qu'en fait, moi aussi, je m'étais radicalisée, mais d'une toute autre façon. Je m'étais radicalisée humblement, mais je m'étais radicalisée par la littérature. Et j'avais choisi cette voie comme espèce de folie.
Erwan Larrière se radicalisait par la littérature. Vous vous adressez parfois directement aussi dans vos lignes aux terroristes du Bataclan. Ce n'est plus seulement mon histoire, c'est aussi la tienne, Iblis. Comment traiter, comment faire avec eux? Pourquoi leur donner voix au chapitre?
Alors là, je vais vous décevoir et j'en suis bien désolé, mais je n'en sais rien. Après, il y a ce processus d'écriture, on réfléchit à des choses, on pense, il y a des choses qu'on anticipe, qu'on théorise, et puis après, bah, il y a l'écriture elle-même, donc ça s'est fait un peu à mon insu aussi, et un peu malgré moi, et c'est des questions, comme le disait Frédérica, qui sont vraiment importantes pour nos générations. Mais après, ça l'était aussi dans les années 70. Hein. Il y avait les Brigades Rouges. C'est pas une violence qui est nouvelle. Après, elle ressurgit. Mais donc c'est des questions en tant que romancier que je me pose depuis mon premier roman. Comment, pourquoi passer à l'acte, où sont les failles, la faillite même du politique, etc. Enfin voilà, toutes ces... Et là, c'est venu sous la plume. Je ne peux pas vous dire mieux, je suis désolé.
Ça va très bien. À travers ces deux livres, en tout cas, vous faites aussi l'un comme l'autre le portrait d'une génération et ses plaisirs, d'une génération et ses loisirs, mais aussi d'une génération ultra connectée et pourtant de plus en plus solitaire. Vous publiez, Erwan Larrière, les tweets qui vous sont parvenus pendant l'attaque du Bataclan, de vos amis, de vos proches, inquiets de savoir si vous êtes toujours en vie, vous suppliant de donner des nouvelles. Ce jour-là, vous êtes d'ailleurs parti sans téléphone. Vous réfléchissez à ce qui fait aussi collectif cette solidarité, ce vivre ensemble, mais vous en revenez toujours à l'idée qu'au fond, on reste solitaire. Parce que tu es à l'extérieur de son drame, quelle que soit la tragédie, cette frontière jamais ne disparaît. L'extrême souffrance nous renvoie à notre irréductible solitude, à notre irréfragable individualité.
Oui, je m'en suis... On s'en aperçoit tous, je crois, dans la vie, quand il arrive des drames autour de nous. C'est cette impossibilité à consoler vraiment. Ça m'est... Ségolène Vincent, qui est auteur et qui est rescapé de Charlie Hebdo, qui écrit un texte magnifique dans mon livre.
Parce que vous faites intervenir d'autres amis romanciers, voilà, comme Alice Zénitaire, comme
des proches, Ségolène
Vincent,
etc.
Ouais. Et vos écritures, pardon, se mêlent, se partagent, leurs questionnements, vos questionnements.
Ce livre ne serait pas ce qu'il est sans ses participations, il y en a 13 ou 14. Et donc, il y avait, quand Ségolène, j'ai appris ce qui lui était arrivé, c'est quelqu'un de très proche et j'avais... C'est impossible de la consoler. Il y a Églantine Lecause aussi qui écrit qui est atteinte d'une maladie. Et aussi proche que je sois de ces gens que j'aime, je ne peux pas grand-chose au fond pour eux. Et je voyais bien que les gens qui voulaient me témoigner de l'amour, de l'affection, du soutien, il y a une zone dans laquelle ils ne peuvent pas pénétrer, qui est cette zone de la souffrance intime, ultime. Personne n'y peut rien, c'est à soi, c'est entre soi et soi.
Certains des chapitres sont d'ailleurs intitulés « Vue du dehors », vos amis s'interrogent, quelles questions vous posez. Peut-être que vous auriez justement, Frédérica Amalia Finkelstein, une question que vous souhaitiez poser à Erwan Larrière, mais vos amis vous demandent aussi, Erwan Larrière, est-ce que toi tu aurais des questions à nous poser? Vous n'y répondez pas d'ailleurs dans le livre. Frédérica Amalia, est-ce que vous auriez une question pour Erwan Larrière?
Moi, ce serait plutôt, quel est ton rapport à la réminiscence de l'événement? Est-ce que tu fais des cauchemars régulièrement?
Absolument pas. Non, je dors très très bien. Je fais pas de cauchemars, j'ai pas de... Et puis encore une fois, l'écriture de ce livre, je me suis pas, comme je le dis, plongé dans des souvenirs. J'ai juste pris un matériau et puis je l'ai travaillé. Donc non, j'ai pas de... Je suis parano maintenant. Je regarde beaucoup par-dessus mon épaule.
Et vous, Erwan Larrière, pour reprendre vos mots, est-ce que toi, tu aurais des questions à nous poser ou à poser à Frédérica Amalia Finkelstein?
Non, toutes les questions que je pourrais lui poser, du coup, je vais lire son livre et puis on en parlera après.
Vous nous lisez un extrait du vôtre, s'il vous plaît?
Avec plaisir. Le chaos, l'enfer, des mots qui ne peuvent habiller la situation. Seul un présent calme, un présent civilisé se laisse décrire sur le vif, apprivoisé de vocables. On me dit la sauvagerie et la barbarie vécue qu'au passé, dépris de l'horreur, limité par les gerçures et fondrières de la mémoire, distancié par des phrases, des adjectifs, un lexique élimé mille fois, endossé par d'autres, qu'il faut, entre technique et relâchement, agencer pour qu'il rende a posteriori l'effroi, le chaos, l'enfer. Des mots pour l'extérieur, pour ce monde du dehors avalé par le vortex de la surviolence, ce monde que tu ne reverras plus, du même œil au mieux. Tu ne penses ni chaos ni enfer, car tu ne penses plus. As-tu peur ? Plausible. Voir tellement au-delà que tu n'as plus peur. Sauver ta peau, te recroqueviller, position fétale, contre la barrière. Tu ne vois rien, tête glissée sous le tissu noir qui habille le métal. Sauver ta peau en te faisant petit, invisible, dans le tumulte et la cacophonie, la puanteur chaude des viscères et de la poudre. Au premier plan, une détonation, proche, un cri aussitôt. Puis une autre détonation, plus près, un autre cri. Guerre, mort, en réchappé, tendu vers la survie. Tu n'es que survie. Rapetisser, disparaître. Quoi ? Une détonation vraiment pas loin, un cri, une détonation, ça claque, c'est sec, Iblis se rapproche, exécute, autour le chaos toujours, l'enfer, mais tu n'entends plus que ces tirs au coup par coup qui viennent vers toi, impuissance, tout ton être se détend, quoi ? Peut-être, la question se pose-t-elle si près de la mort ? Une détonation juste derrière toi cette fois, tu ne vas pas y échapper. Une balle de calibre 7,62 tirée à bout portant pénètre dans la chair à environ 700 mètres secondes, soit plus de 2500 km/h, soit environ deux fois la vitesse du son. Donc, la balle de calibre 7,62 t'est sans doute entrée dans le corps avant que tu entendes la détonation.
Aucun faux-semblant dans ce livre d'Erwan Larrer. C'est beaucoup le tu qui est le narrateur de ce roman. Le jeu parfois revient, le jeu, ce jeu qui s'est dissous, le moi dissous au Bataclan à la seconde où vous pensez mourir. Depuis, on sent que vous tâtonnez, Erwan Larrer, du tu au jeu, avant de terminer par « Je ne veux toujours pas, pourtant j'écris mon amour ». Vous l'avez qu'à moitié retrouvé, peut-être ce moi, ce jeu, mais vous êtes là avec nous et on vous en remercie, Erwan Larrer.
Je veux juste signaler que cette fin, c'est un vu de l'extérieur, c'est un texte de Loulou Robert, magnifique.
Erwan Larrer, auteur de ce livre que je ne voulais pas écrire avec Frédérica Amalia Finkelstein pour survivre. J'ai presque envie de vous demander à tous les deux si vous ne voulez pas rester avec nous parce qu'on vient d'accueillir François Sureau. François Sureau qui est avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation et qui envisage la vie d'après lui sous le prisme de nos libertés publiques dans Pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre la raison chez Talendier dont nous débattrons dans la deuxième partie de l'émission à partir de 12h55. Mais François Sureau est aussi écrivain et romancier. François Sureau, faire œuvre littéraire à partir de votre propre expérience. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs dans Le chemin des morts, votre dernier récit, publié chez Gallimard, inspiré de votre expérience d'auditeur au Conseil d'État quand vous avez eu à juger de la demande de protection par la France d'un ancien militant basque refusant de rentrer en Espagne après 20 ans d'exil. Écrire vous a aidé, François Sureau ?
M'a aidé, vous voulez dire, dans le cas du chemin des morts ?
Oui.
Je trouve que, de manière générale, écrire n'aide en rien. S'il y a un salut à espérer, il est à mon sens pas vraiment dans la littérature. Le chemin des morts, c'est plutôt imposé à moi à l'occasion d'une affaire ultérieure, de l'accompagnement d'un réfugié qui était menacé à l'époque, il y a quelques années de ça, d'être renvoyé dans son pays d'origine qui était l'Afghanistan. Et je me suis rendu compte à cette occasion que, en réalité, si les choses allaient comme elles allaient, c'est-à-dire au fil de l'eau, normalement, le réfugié en question serait le deuxième que je laisserais partir vers une fin à peu près inéluctable. Et donc je me suis réveillé à ce moment-là, et c'est ça qui m'a fait écrire ce livre sur le premier que j'avais refoulé dans les abîmes de la mémoire jusque-là.
Alors peut-être pas de consolation pour vous par l'écriture, en tout cas ce que la littérature des autres nous donne à comprendre, ces plaidoiries que vous publiez ici chez Talendier sont nourries de références littéraires à des auteurs qui vous sont chers. Vous restez avec nous, on vous retrouve à partir de 12h55, Erwan Larrer, Frédérica Amalia Finkelstein. Vous avez 25 minutes pour décider si vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission et ouvrir cette réflexion sur le rapport, l'équilibre entre sécurité et liberté à partir aussi de la littérature, à partir aussi de ces grands principes qui nous dictent. Merci beaucoup à tous les deux.